Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire. Vous êtes sur les ondes de CHIZ 94.3 et ce soir, nous recevons la linguiste Anne-Marie Beaudoin-Bégin pour une émission sur l'histoire de la langue française. À l'animation, vous êtes en compagnie de Émy Bois et de Patrick Pontbriand qui se joint à l'équipe des 3600 secondes d'histoire. Bonsoir Patrick.
Bonsoir.
À la console, vous êtes avec la fantastique Myriam Lévesque. Bonsoir Myriam.
Bonsoir Émy.
Sans plus tarder, présentons notre invitée, Anne-Marie Beaudoin-Bégin, linguiste spécialisée en sociolinguistique du français québécois. Très connue sur Facebook en tant que l'insolente linguiste, elle a été chargée de cours à l'Université Laval, chroniqueuse à l'émission Québec Réveil, diffusée au 88.3, en plus de donner de nombreuses conférences, que ce soit au collégial ou ailleurs. Madame Beaudoin-Bégin a fait paraître en 2015 aux éditions Somme Toute un ouvrage nommé « La langue rapaillée, combattre l'insécurité linguistique des Québécois » et un second ouvrage en 2017, « La langue affranchie, se raccommoder avec l'évolution linguistique ». Encore avec les éditions Somme Toute, elle a publié à l'automne 2017 son dernier ouvrage, terminant ainsi sa trilogie « La langue racontée, s'approprier l'histoire du français », sujet de l'émission de ce soir. Bonsoir Madame Beaudoin-Bégin.
Bonsoir.
Bienvenue à l'émission.
Merci.
Donc, votre récente publication se veut une brève synthèse de l'histoire de la langue française, passant par de la latinisation de la Gaule commencée dès le 2e siècle avant Jésus-Christ à aujourd'hui, au 21e siècle, donc du territoire français au territoire québécois, et elle met en lumière les événements marquants les rapports de force ayant forgé l'histoire de la langue française, tout en nuançant là, certains mythes qui circulent au sujet du français avec, et j'aimerais le dire avec humour, j'ai beaucoup aimé votre style d'écriture.
Merci.
Alors, Madame Beaudoin-Bégin, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire l'histoire, en fait, la langue racontée, l'histoire un peu de la langue française?
Bien, c'est que j'ai donné pendant longtemps le cours d'histoire de la langue française au département de linguistique ici à l'Université Laval et bien, j'avais besoin d'un livre pour donner ce cours-là et c'est en rapaillant toutes mes notes et en constatant que j'avais besoin comme d'une espèce de synthèse plus sociale parce qu'étant donné que je suis sociolinguiste, je trouvais que les livres, je dirais, généralistes d'histoire de la langue française n'avaient pas un angle assez social à mon goût. Ben, j'ai comme écrit le livre dont j'avais besoin. Donc voilà, c'est ça. Mais je trouve que... Puis aussi, c'est parce que je trouve que l'histoire de la langue manque dans la population en général, en quelque sorte. Je trouve que les gens devraient s'intéresser un petit peu plus à l'histoire de la langue au lieu de juste parler de la grammaire et faire des dictées. Non.
En effet, vraiment, vraiment intéressant l'ouvrage. Et en fait, vous le dites dans le titre, c'est de s'approprier l'histoire du français. Comment vous pensez que cet ouvrage-là permet aux Québécois et aux Québécoises de s'approprier l'histoire du français?
Bien, mon sous-titre, s'approprier l'histoire du français, a deux sens. Le premier sens, c'est que dans mon ouvrage, c'est comme si je redonnais l'histoire du français aux gens ordinaires. Parce que dans la majorité des ouvrages, les ouvrages généralistes, parce que évidemment, j'ai pas la prétention d'être la seule à avoir fait ça, là, mais dans la majorité des ouvrages généralistes, on parle de l'histoire du français comme de la grande langue. Là. On parle de la langue de Molière, puis on va parler des serments de Strasbourg comme la langue du roi et la langue, les petits-fils de Charlemagne. Et on va parler de la langue des gens très, très importants, alors que la langue française, c'est la langue des gens ordinaires aussi. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire dans mon ouvrage, c'est comme de recentrer l'histoire sur les gens ordinaires, de dire, regardez, vous voyez, nous, on fait ça, puis eux aussi faisaient ça comme ça. Donc, essayez de montrer que cette histoire-là appartient aussi aux gens ordinaires. C'est la langue de tout le monde. C'est pas seulement la langue des grands, c'est pas seulement la langue des personnes importantes. Donc, ça, c'est le premier sens de s'approprier l'histoire du français. Et c'est aussi parce que j'ai inclus dans mon ouvrage l'histoire du français québécois, contrairement à la majorité des ouvrages généralistes où on inclut l'histoire du français québécois en annexe dans, par exemple, les Français d'outre-mer ou quoi que ce soit, et on met comme deux citations de Michel Tremblay, et voilà, avec le français des Antilles et le français de la Belgique ou je sais pas quoi, et voilà, c'est tout. Et on parle pas du français québécois comme si c'était une langue à part entière. Donc, c'est comme si le Québec était... C'est comme si on traitait toujours le Québec en annexe, en fait. Comme si l'histoire du français appartenait pas aux Québécois. Comme si l'histoire du français, c'était toujours quelque chose d'extérieur et nous, notre français, est toujours une note de bas de page. Donc, je voulais montrer que l'histoire du français, notre histoire, fait partie... En tout, est un tout global et c'est pour ça que j'ai fait ça.
En fait, je crois que c'est très, très réussi là, comme, comme ouvrage. C'est un ouvrage de référence désormais. Là, puis je pense que c'est, ça a totalement sa place dans la littérature québécoise. Vous avez abordé tout plein de sujets là, qu'on va réaborder au cours de l'émission parce qu'on va faire une espèce de survol de votre ouvrage « La langue racontée ». Donc, ça promet d'être une émission fort intéressante. On va déjà écouter notre première pièce musicale datant de la Renaissance, « Voulez ouïr les cris de Paris ». Composé par le prêtre Clément Jeannequin, pour nous mettre dans le bain, on va entendre comment les gens de Paris pouvaient parler au 16e siècle. Bonne écoute.
Moi, Louis de Buade, comte de Frontenac, je vous répondrai par la bouche de mes micros.
Vous êtes de retour aux 3600 secondes d'histoire pour une émission sur l'histoire de la langue française en compagnie de la linguiste Anne-Marie Baudouin-Bégin. Nous avons discuté précédemment, il y a quelques secondes presque, de l'intérêt de notre invité quant à la rédaction d'un ouvrage historique traitant de l'évolution du français parlé et écrit. Maintenant, entrons un peu plus profondément dans le sujet. Donc, on va commencer par le début de l'ouvrage, La langue racontée. Au moment où Rome a conquis la Gaule entre le 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, quel rapport de force existait-il entre le gaulois et le latin vulgaire, pour ne pas dire les latins vulgaires au pluriel?
En fait, la grosse différence entre le gaulois et le latin, c'est que le gaulois n'est pas écrit et le latin est écrit. Donc ça, c'est la grosse différence. Et c'est pour ça que le latin a été capable à ce point de conquérir la langue gauloise. T'sais, on dit que le latin a effacé le gaulois parce que le gaulois... Ben, en fait, on dit le gaulois, mais on devrait dire les gaulois. Parce que c'est les peuples gaulois, c'était comme des petits peuples disparates, en quelque sorte. C'était des petits villages. Il n'y avait pas beaucoup d'unités, je dirais d'unités politiques. Il y avait Vercingétorix, je pense que les historiens vont être meilleurs que moi pour parler de ça. Mais en fait, l'unité... L'unité politique, l'unité administrative, l'unité culturelle de Rome était beaucoup, beaucoup plus puissante que la Gaule. Donc, c'est pour ça. Et aussi, c'est qu'il y avait la possibilité de l'écriture. Donc, si on fait la comparaison, c'est comme l'idée que je donne, par exemple, c'est comme si, mettons, on avait un peuple qui a Internet puis un peuple qui n'a pas Internet. C'est évident que le peuple qui a Internet serait beaucoup, beaucoup plus en avance que le peuple qui n'a pas Internet. Puis, alors, moyen terme, le peuple qui n'a pas Internet finirait par avoir Internet et prendrait probablement le code Internet de celui de l'autre. T'sais. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc, finalement, ce qui est arrivé, c'est que les Gaulois se sont latinisés tranquillement. Donc, c'est ça qui est arrivé. C'est que tranquillement, de génération en génération, les Gaulois ont appris le latin. Mais il ne faut pas penser que ce que les Gaulois ont appris, c'est le latin classique. Donc, c'est ça qui est important qu'il faut savoir parce que on pense que le latin que les Gaulois ont appris... Parce que l'image du latin qu'on a aujourd'hui, c'est comme le latin qu'on apprend dans les cours, quand on fait des cours de latin ici à l'Université Laval. Là. On pense que c'est ça. Quand on parle du latin, c'est ça. C'est pas ça du tout que les Gaulois ont appris. Parce que les gens, les Romains, par exemple, les garnisons romaines qui sont arrivées, qui ont conquis la Gaule, qui se sont installées en Gaule, c'était pas du tout ce latin-là qu'ils parlaient. Là. C'était un autre latin. C'était un latin qu'on n'a pas, pour lequel on n'a pas de traces. Parce qu'ils écrivaient pas ce latin-là. c'était pas ça qu'il écrivait, parce que l'écriture n'était pas à ce point diffusée dans ce temps-là. Donc, le latin que les Gaulois ont appris, c'était un latin oral. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le latin vulgaire. Mais moi, j'ai beaucoup de misère avec cette terminologie-là de latin vulgaire, parce que d'une part, ben, d'abord, le mot vulgaire, c'est un peu connoté. Mm-hmm. On s'entend. Mais on n'a pas d'autres mots, fait qu'on va continuer avec latin vulgaire, mais... Faut savoir que le latin vulgaire, quand on le nomme comme ça, ben c'est le latin vulgaire qui a donné les langues romanes. Donc l'italien, l'espagnol, le roumain, le portugais, le français, toutes ces langues-là, ça vient du latin vulgaire. Donc si ça a donné tant de langues différentes que ça, c'est parce qu'il devait y avoir de la variation là. Il faut penser ça. Il faut toujours. Puis c'est pour ça que je dis quand je dis que j'ai mis de la sociolinguistique dans mon livre là, c'est que j'ai toujours parlé en termes de variation. Parce que moi, je suis une sociolinguiste variationniste. Je parle en termes de variation linguistique. On a de la variation tout le temps. Ça varie en fonction de l'âge. Ça varie en fonction de la classe sociale. Ça varie en fonction du registre de langue. Donc, il y a toujours de la variation. Aujourd'hui, on la constate, mais elle a toujours été là. Donc, il y avait énormément de variations. Puis là, il faut savoir que les Gaulois qui ont appris le latin vulgaire, bien là, ils l'ont transmis à leurs enfants. C'était la langue seconde. Ça, c'est comme si moi, j'apprends l'anglais, puis je transmets à ma fille l'anglais que moi, j'ai appris, puis ça devient sa langue maternelle. Mais mon anglais que je lui ai transmis, c'est pas l'anglais de langue maternelle, là. Donc, l'anglais que ma fille apprend, c'est pas l'anglais langue maternelle. Puis là, si elle transmet cet anglais-là à ses enfants plus tard, ben il y a un changement dans cet anglais-là. Ça devient... C'est plus le même anglais, là. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et les gens écrivaient pas. Faut penser à ça aussi, là. Les gens écrivaient pas. Il y avait pas de moyen de communication. Ça prenait 8 ans à se rendre d'un lieu à l'autre, là. Donc, il faut penser ça. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça. Puis là, on parle juste de l'évolution du Gaulois, là. Donc, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'était ça le rapport de force avec...
Et on parle d'un mythe national quand on pense justement aux Gaulois et aux origines gauloises, des traces du Gaulois dans le français. Qu'est-ce que cette fascination-là là, pour les origines du français et le Gaulois?
Oui, dans l'histoire, quand on fait l'histoire de la langue française, on parle toujours du substrat gaulois. Moi, je l'ai fait. Je pense que quand j'étais... étudiante en linguistique, j'ai entendu parler, je l'avais compté, là, j'ai entendu parler du substrat gaulois dans 7 de mes cours en linguistique. Et ça marchait pas dans mes... ça marche pas parce que c'est difficile à expliquer. Il y a des choses qui fonctionnent pas dans cette histoire-là de substrat gaulois. Le substrat gaulois, ça serait comme si... un substrat, c'est comme les traces de la langue du vaincu qu'on laisse sur la langue du vainqueur. C'est-à-dire que c'est comme si, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné, moi qui a l'anglais comme langue qui parle juste anglais, mettons, c'est comme si mon anglais avait un substrat français, là. Tu sais, c'est comme ça. Mais en fait, le français n'a pas de substrat gaulois parce que les traces qu'on a trouvées, les preuves de substrat gaulois qu'on aurait trouvées, s'expliquent toutes par d'autres manières. Puis les traces de gaulois qu'on a sont pas assez importantes. C'est des traces, c'est des noms de lieux, c'est des noms d'animaux, c'est des noms... On n'a pas tant que ça de mots et de traces du gaulois dans notre langue pour parler de substrat gaulois à ce point. Pour être un substrat, il faut que ça soit beaucoup plus important que ça. Il y a même des gens qui disaient que le son « u » dans notre langue, ça viendrait du gaulois, mais on l'a vu apparaître en français, genre très tard dans l'histoire du français. Je me souviens plus du siècle en précis, mais c'est vraiment trop tard dans l'histoire du français par rapport au gaulois pour que ça soit ça. Et l'histoire du gaulois, moi, je pense que ça vient de cette espèce d'histoire de vouloir toujours rattacher les origines aux gaulois. Tu sais, c'est comme nos ancêtres, les gaulois. Moi, je me souviens, j'avais quand j'étais étudiante, j'avais eu un cours d'espagnol, puis il y avait un étudiant qui venait de la Martinique, puis qui disait qu'il y avait ses cours d'histoire, puis les profs d'histoire parlaient de nos ancêtres, les Gaulois, en Martinique. Je veux dire, c'est fort en France, les histoires de nos ancêtres, les Gaulois. Puis je pense que ça vient avec ça, là. Cette volonté de toujours vouloir rattacher toutes les choses aux Gaulois, là. On va se calmer un peu.
Si on se permet maintenant de faire un petit bond dans le temps de comme un petit 600 ans jusqu'au 8e siècle, oui, voilà. Juste ça. Au moment où Charlemagne, le roi des Francs, il décide qu'il s'ennuie de l'Empire puis qu'il se proclame empereur lui-même avant de donner son nom à l'Empire, À ce moment-là, la langue parlée a subi plusieurs transformations, en fait, et le peuple franc délaisse tranquillement leur langue francique au profit de la langue latine, qui devient leur langue maternelle. Mais sous le règne de Charlemagne, le latin, ou plutôt les différentes variations de latin qui sont parlées dans le territoire, ils subissent beaucoup de différences, puis ça crée une grosse différence entre la langue du peuple et la langue ecclésiastique, la langue des clercs. Et Charlemagne, il trouve que ça cause un petit problème de communication, puis il décide de lancer une réforme. Donc, selon toi, c'est quoi les effets de cette réforme-là sur la langue qui est parlée par tout le monde, en fait?
En fait, c'est Charlemagne qui a inventé l'école, qui a eu l'idée folle. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que les clercs, les prêtres ou les gens, les ministres du culte connaissaient plus, maîtrisaient plus le latin comme ils devaient le maîtriser pour transmettre la bonne parole. Moi, je suis une mécréante puis je suis une athée, donc peut-être que je ne prends pas les bons termes pour parler de ça, mais en tout cas. Donc, il y a une anecdote très, très intéressante, en fait, qui avait dit apparemment... Mais en fait, c'est vrai, hein, j'ai trouvé le texte tel quel, là, qui dit que c'est un prêtre qui avait béni au nom de la fille et de la patrie, au lieu de dire au nom du père et du fils, parce qu'il ne parlait pas bien latin. Donc... Et là c'est vraiment, en fait, dans les notes, ce que ça dit, c'est le prêtre qui écrit à son supérieur pour savoir si le baptême ou le mariage était béni quand même, parce qu'il avait béni au nom de la fille et de la patrie au lieu de venir au nom du père et du fils. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que Alcuin est arrivé et a fait une réforme et on a décidé d'enseigner, de faire un système de faire un système scolaire pour réenseigner, entre guillemets, je mets des gros guillemets parce que je ne sais pas si les prêtres le savaient déjà, enseigner le latin aux prêtres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'Alcuin, lui, il avait un gros, gros, gros système scolaire super important. Il voulait se rendre jusqu'au peuple, hein. Lui, là, c'était comme un gros réformateur. Ça a été super cool. En tout cas, ça n'a pas marché, manifestement. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les prêtres se sont mis à parler latin à l'église et on s'en sont mis à dire la messe en latin et là, le monde ne comprenait plus. ça n'a pas réglé le problème, finalement. Voilà.
Mais c'est ça, qu'est-ce qui est arrivé finalement? Est-ce qu'on est revenu à une sorte de latin adapté pour que le peuple comprenne? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a une reconnaissance officielle d'une autre langue là, que
oui,
le latin?
Oui, c'est ça. C'est qu'on a fait le Concile de Tours en 813. Donc, c'est en 813, il y a eu un concile et dans ce concile-là, c'est qu'on a décidé de faire l'homélie en lingua rustica romana. Donc, c'est à ce moment-là, c'est la première fois qu'on reconnaît, et c'est pas du français, là, c'est écrit lingua rustica romana, et il y a aussi lingua rustica tedeusca, parce qu'il y avait une partie sur le territoire où c'était germanique. Tedeusca, c'est la partie germanique, parce que c'était le territoire de l'ancien empire carolingien. Donc, il y avait une partie germanique. Donc, il y avait des gens qui parlaient un dialecte romain, un dialecte français, je dirais. Et il y en avait qui parlaient un dialecte germanique parce que c'était des anciens francs. Et donc, on a décidé qu'en 813, on allait faire l'homélie. L'homélie, c'est la partie de la messe où le prêtre s'adresse directement aux fidèles et il lui enseigne la bonne nouvelle. Il lui dit faut pas que tu couches avec ta sœur et faut pas que tu fasses telle chose, telle chose, telle chose. C'est quand même important que les gens comprennent quand il lui parle. Donc, on a décidé de faire ça et donc, il fallait que les prêtres parlent dans la langue du peuple, en fait, la langue rustique. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que certaines personnes disent que c'est l'acte de naissance du français. C'est la première reconnaissance qu'on ne parlait plus du latin. Donc, et lingua rustica, ça veut dire que chaque petite communauté avait son propre parler et chaque prêtre devait s'adresser dans la communauté dans leur propre langue. Donc, en théorie, l'image que j'ai, moi, c'est que chaque prêtre devait venir de la communauté et connaissait la langue ou le dialecte ou je sais pas trop quel mot utiliser, l'idiome qui était utilisé dans cette communauté-là et s'adressait dans cette langue-là. Faut pas penser qu'il y avait une banque d'homélie dans un gros cartable, là, puis qu'on avait toutes les traductions, là. C'était pas comme ça que ça se passait.
En linguistique, les linguistes font une différence entre les scripta, c'est-à-dire la langue écrite, et la langue. Pourquoi cette distinction-là est particulièrement importante quand on étudie des textes du Moyen Âge?
Ah oui, parce que moi, je me souviens, dans un des cours d'histoire, j'avais lu ça dans un cours d'histoire de la langue quand j'étais étudiante, dans un texte où on disait l'étonnante, on parlait de l'étonnante uniformité de la langue française au Moyen Âge. Puis moi, je trouvais ça, voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je comprenais pas, c'était quoi? C'est parce que les textes au Moyen Âge sont assez uniformes. Quand on prend des textes qui viennent du Moyen Âge, on constate que la langue utilisée dans. C'est assez uniforme. Puis on pourrait, en effet, conclure que la langue du Moyen Âge est assez uniforme. Mais ça n'a aucun bon sens à conclure à ça. Je veux dire, on regarde la langue aujourd'hui, là. On est à l'ère des communications. On n'a jamais autant communiqué. Puis on a une variation. On ne parle pas pareil. Il n'y a personne ici de nous quatre qui parlons pareil, là. T'sais? Puis ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas qu'on n'ait pas de variation, là. Puis là, on parle du Moyen Âge. Il y avait comme 0,63% de la population qui écrivait, puis ça prenait 8 jours pour se rendre entre Québec et Lévis. C'est ridicule de penser ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était pas la langue. Faut pas parler de langue, faut parler de scripta. La scripta, c'est comme le système d'écriture. C'est qu'à un moment donné, tranquillement... Évidemment, après le Concile de Tours, quand on a commencé à comme reconnaître le fait que on faisait l'homélie dans la lingua rustica romana, ça c'était comme la reconnaissance qu'il y avait une autre langue. Donc tranquillement, pas vite, la lingua rustica romana a tranquillement gagné certaines lettres de noblesse. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont mis à écrire, à vouloir écrire dans ces langues-là. Donc il s'est développé. À mesure que le temps passait, certaines manières d'écrire cette langue-là. Donc, au début, ça, c'est ce qui s'est développé, c'est qu'on a tenté de copier la manière d'écrire avec le latin. Mais évidemment, c'était difficile parce qu'il y avait des sons qui n'étaient pas écrits avec le latin. Donc, il fallait patenter quelque chose puis se trouver des manières de faire. Et là, tranquillement, il s'est développé comme... Sur le territoire de la France, on avait comme un scriptorium qui écrivait de telle manière, puis un autre scriptorium qui écrivait de telle manière. Puis là, à mesure que le temps passe, il y a différentes scriptées, parce qu'au pluriel, on dit scriptées, il y a différentes scriptées qui se sont développées. Puis à mesure que le temps passe aussi, ben là, tout à coup, c'est la scripta de Paris, parce que Paris, c'est la plus big ville de... Bon, voilà, qui gagne. Et là, finalement, on constate une certaine uniformité dans tout ça. Mais là, c'est pas la langue. C'est comme si on se mettait tous... Tu sais, je veux dire, si on écrit tous, là, les quatre, là, on va probablement constater qu'on écrit pas mal toutes pareilles parce qu'on est assez... On est des universitaires. Mais moi, je vais écrire différent de vous parce que je suis le chaos, là, mais... mais tu sais, mettons, on devait écrire quelque chose qui suivait un peu les mêmes schèmes, là, ben, on écrirait tous pareil. Puis les gens pourraient constater qu'on écrit, on a la même langue. Mais tu sais, je veux dire, on peut pas trouver que... À partir de l'écrit, on peut pas constater que c'est la langue. Tu sais, je veux dire, c'est comme si on disait que on va prendre des textes modernes d'aujourd'hui, mettons quelqu'un dans 200 ans va prendre des textes d'aujourd'hui, va lire ça puis va dire voilà, c'est comme ça que les gens parlaient. Hein. Je veux dire, c'est comme si les gens pensaient qu'on parle tous comme Mathieu Bock-Côté là. Ça serait, ça serait épouvantable en tout cas.
Donc c'est déjà le temps d'écouter notre deuxième pièce musicale et après la pause, nous continuerons notre survol de l'histoire de la langue française et particulièrement là, au 17e siècle et jusqu'au 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui même. Donc, nous allons écouter En passant par la Lorraine, type de chanson qui pouvait être entendue en Nouvelle-France du groupe La Sainte-Barbe. Bonne écoute!
Toi capitaine, aux vignes, aux vignes, aux vignes, les mangos, labourer les vignes bientôt. Mangos, labourer les vignes, 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 les mangos, labourer les vignes bientôt. Rencontrez toi capitaine et mangos, ils m'ont salué vilaine, aux vignes, aux vignes, les mangos, labourer les vignes bientôt. Mangos, labourer les vignes, 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 les mangos, labourer les vignes bientôt. Ils m'ont salué, vilaine Margot. Je ne suis pas si vilaine. Ouvrigne, ouvrigne, ouvrigne les Margot. Labourez les vignes bientôt. Margot, labourez les vignes, 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 vignes les Margot. Labourez les vignes bientôt. Je ne suis pas si vilaine Margot. Puisque le fils du roi m'aime, on vigne, on vigne, on vigne, on est Margot, labourez les vignes bientôt. Margot, labourez les vignes, 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 les Margot, labourez les vignes bientôt. Il m'a donné pour étrenne Margot un bouquet de marjolaine, on vigne, on vigne, on vigne, on est Margot, labourez les vignes bientôt. Margot, labourez les vignes, 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 les Margot, labourez les vignes bientôt. Un bouquet de marjolaine Margot. Si fleuri, je serai reine. Au vigne, au vigne, au vigne, les Margot, labourez les vignes bientôt. Margot, labourez les vignes, 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 les Margot, labourez les vignes bientôt.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Tannée de toujours entendre des gens fâchés à la radio? Essayez Chérie J'arrive, nouvelle formule améliorée. Plus de chroniqueurs, plus de nouveautés musicales, d'artistes en entrevue, des arts visuels, d'improvisation, du théâtre, de la danse, du cinéma et même du monde qui passe à TV! Chérie J'arrive est disponible dès maintenant du lundi au vendredi de 16h à 17h30 pour 5 paiements faciles de... gratuits! Chérie J'arrive, l'émission des gens toujours contents et pertinents. Je suis Émilie Rioux et j'approuve ce message.
Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Oui. Circuit! Les capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
La fin de semaine arrive et vous avez besoin de suggestions pour accompagner votre souper du samedi? L'Espace JC est là pour vous donner des conseils et vous en apprendre plus sur les vins, bières et spiritueux. En compagnie d'experts, nous vous divertirons tout en humour et sans prétention pour votre plus grand bonheur. L'Espace JC, c'est tous les vendredis dès 22h seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Jeanne d'Arc, tu dois libérer la France du joug de l'anglais.
Est-ce que ça peut attendre? C'est 3600 secondes d'histoire.
Oh, est-ce que je peux me tirer une bûche? On n'en a pas pour 100 ans.
Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour une émission sur l'histoire de la langue française en compagnie de la linguiste Anne-Marie Beaudoin-Bégin. Avant la pause, nous avons discuté de l'évolution de la langue latine puis française de l'Antiquité à la Renaissance et nous allons maintenant passer brièvement par le 17e siècle et jusqu'au 21e siècle. Donc, pour ce fameux 17e siècle...
Oui.
J'ai perdu ma question, ça sera pas long. Où est-elle? Donc, en fait, c'est le pinacle culturel, hein, comme on l'appelait. La langue française, c'était le pinacle culturel à l'époque au 17e siècle. Alors qu'aujourd'hui, si on veut bien parler, on utilise un langage soigné identique à celui qu'on utiliserait à l'écrit. Ben, ça n'a pas toujours été le cas. Et au 17e siècle, c'était davantage l'oral qui primait sur l'écrit. Donc, la langue écrite devait suivre le modèle de la langue orale. Donc, considérée comme un pinacle culturel, comment la langue orale a été un facteur de discrimination sociale au 17e siècle?
Bien, au 17e siècle, donc voilà, l'usage, c'était le bon usage de la cour qui était comme le modèle, qui servait de norme. Vaugelas, même un grammairien du 17e, dit dans un de ses ouvrages qu'on ne peut pas savoir comment un mot s'écrit si on ne l'a pas prononcé. Ça, c'est vraiment hot, là. On penserait jamais dire ça aujourd'hui, là. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, même, on va écrire un mot pour savoir comment le prononcer, là. Ça, je veux dire, Vaugelas, il n'y a pas parole sur tout, là. Il n'est pas omniscient, là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça traduit vraiment la pensée de l'époque. La norme, c'était la langue de la cour, la langue orale de la cour. Donc, les écrivains du 17e, donc ceux pour qui on tu sais, quand on dit la langue de Molière, la langue des grands écrivains du 17e, là, ben ils copiaient la langue de la cour à l'époque. Puis si on regarde les ouvrages de référence du 17e siècle, on va remarquer que il est pratiquement pas question d'orthographe, il est pas question d'accord, il est pas question de règles de l'écrit Il est question de est-ce qu'on prononce ça comme ça ou on prononce ça comme ça. Il est question de syntaxe. Est-ce qu'on doit dire ça de telle manière ou de telle autre manière? Il est question de sens des mots. Donc, c'est vraiment, vraiment l'oral. Et les règles de l'écrit, ben on s'en foutait. Au 17e siècle, là, ben même avant, en fait, avant la Révolution française, les gens, là, ils s'en occupaient pas des règles de l'écrit. Puis ça c'est, faut vraiment qu'on se rende ça dans la tête parce que nous, on a un peu le cerveau lavé, là, quand on, aujourd'hui, là. C'est comme si l'image que j'ai par rapport à... J'ai cherché une espèce d'analogie pour qu'on puisse comprendre ça, là. C'est comme un peu aujourd'hui, nous, les règles pour la musique écrite, la musique, les partitions, là. Je veux dire... Ici, parmi nous quatre, là, c'est qui est capable de lire les partitions? Moi, je ne sais pas lire les partitions. Est-ce que vous le savez?
Non.
Pat un petit peu. Voilà. On écoute quand même de la musique, hein?
Oui.
Bon, voilà. Mm-hmm. Ben, c'est ça. Donc, on ne sait pas lire les partitions et on ne sait pas l'écrire. Mais on profite quand même de la musique. Donc, c'est ça. On s'inquiète pas de comment la musique est écrite. Parce que ça nous concerne pas. Les règles de l'écrit, c'était des considérations des imprimeurs, de certains grammairiens et des choses comme ça. Et même le roi, je veux dire, Louis XIV, c'était comme le plus top de toutes les tops là, dans la société. Là, il écrivait n'importe comment. Il mettait pas d'espace entre ses mots, puis il écrivait n'importe comment. On a ses lettres, là. Puis il s'en foutait. Carrément. Fait que, l'idée que... Le lien entre la connaissance de la langue et la connaissance de l'écrit, la maîtrise des règles de l'écrit. Donc, c'est l'idée que si tu respectes pas les règles de grammaire et les règles d'orthographe, tu ne connais pas ta langue, comme on a aujourd'hui, parce que c'est ça qu'on dit aujourd'hui. Si tu n'accordes pas ton participe passé, tu n'es pas bon en français. C'est pas t'es pas bon pour respecter les règles de l'écrit, c'est t'es pas bon en français.
Ouais.
Ben c'est ça. Mais dans ce temps-là, c'était pas ça du tout. On s'en foutait. C'est pour être bon dans ta langue, fallait que tu sois capable de faire des belles figures de style, fallait que tu sois capable de prononcer telle chose. Donc, c'était ça la norme. Et c'était comme ça qu'on pensait. C'était ça les valeurs. Et la valeur a changé avec le temps. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos règles aujourd'hui qu'on a dans nos ouvrages de référence. Faut pas employer tel mot avec tel autre mot. Faut pas faire de telle chose. Ben ça vient de ces règles esthétiques-là qui sont complètement arbitraires et, disons-le, ridicules parfois et illogiques. Ben ça vient de ce temps-là. Parce que, voilà. On trouve que c'était beau. Puis eux autres, c'était des big shots, fait qu'il faut les écouter.
Puis revenons un peu à la discrimination sociale.
Oui, parce que moi, j'ai pas répondu
ça
à ta question.
Ben, en fait, justement, encore aujourd'hui, oui. Ça en est un. Hein, c'est la variation diastratique,
oui.
Si je me trompe
la
pas.
La variation de classe.
Donc, c'est ça, ça a pas disparu, là, finalement.
Non, c'est ça. C'est-à-dire que la variation de classe, c'est-à-dire que si la manière de parler, si tu parles d'une certaine manière, t'es jugé socialement. Donc, en français, au 17e siècle, c'est que si tu te faisais... Tu pouvais ne pas parler d'une bonne manière, tu étais jugé socialement, tout à fait. Et si tu faisais pas... Tu suivais pas telle règle de français, ben, tu étais jugé socialement. Et il y avait vraiment... Il y avait un clivage social très, très, très fort selon la manière dont on parlait. C'est encore aujourd'hui, mais c'était encore plus fort à cette époque-là. Ouais. Donc, voilà, c'est ça.
Justement parce que l'oral primait sur...
Oui, exactement, ouais. C'est ça. Puis il faut aussi savoir que ce qu'il faut penser aussi... Moi, j'ai toujours un film en tête. C'est pas tout à fait à la même époque parce que c'est plus tard. Mais je sais pas si vous vous souvenez du film Ridicule. Bon, non. Je me souviens même plus du faudrait le retrouver, c'est qui a fait ce film-là, mais les nobles travaillaient pas, hein? La noblesse, les aristocrates français travaillaient pas, avaient pas le droit de travailler, et ils s'emmerdaient. Je veux dire, quand il y avait pas de guerre, là, il y avait rien à faire, il avait pas le droit de travailler, ils pouvaient juste avoir de l'argent, soit en se faisant, en têtant les plus nobles qu'eux, les plus hauts qu'eux dans la hiérarchie, ou en ayant des terres, bon, voilà, ou dans les colonies, bon. Mais, fait qu'ils s'emmerdaient, donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'inventaient des petites guéguerres internes, puis ils faisaient des jeux de langue, puis là, fallait dire, à un moment donné, là, fallait se mettre à prononcer les ER en AR, donc fallait dire chercher au lieu de chercher, fallait dire Varte au lieu de verte. Puis là, ça, c'était la mode, là. Ça, c'était la grosse mode, il fallait dire ça. Puis il fallait dire Mais il fallait pas dire ça Serge au lieu de Sarge. Là, ça marche pas. Parce que c'est Sarge qu'il faut dire. Savez-vous ça qu'il faut dire Sarge au lieu de Serge? La vraie manière de prononcer Serge, c'est Sarge.
Pas parce qu'on est allé trop.
Non, Sarge, j'aimerais pas ça. Si tu suis pas cette mode-là, ben là, t'es jugé négativement parce que, bon, c'était des petites guéguerres comme ça qu'il faisait. Et on a hérité de beaucoup, beaucoup de ces espèces de petites guéguerres-là. Et au 17e siècle, ce qui est drôle, c'est que nous, au Québec, ben, on a hérité de certaines de ces prononciations-là, puis on n'a pas été au courant des changements qu'eux autres ont faits, parce que nous, on était ici, on défrichait notre terre, puis on n'avait pas le temps de s'occuper de ça.
Pour ceux et celles qui souhaiteraient peut-être écouter le film, ça a été réalisé par Patrice Leconte.
Oui, c'est ça, Patrice Leconte, oui, merci. C'est un excellent film, film, pour vrai, sérieux. Puis ils font des jeux linguistiques, là, puis le gars, il veut enlever... En tout cas, je ne compterai pas le film.
Donc, nos amis les rois de France du 17e siècle, qui se permettent d'écrire et de parler un peu comme ils veulent, ils se permettent aussi de lancer des empires coloniaux et de fonder des colonies de peuplement en Amérique du Nord. Ils envoient donc des colons, des administrateurs, des soldats, des membres de la noblesse, tout plein de monde, afin de peupler leurs colonies. Sachant qu'au 17e siècle, les patois ou les dialectes étaient encore très présents en France et que dans plusieurs régions, la majorité du monde ne parlait même pas français, comment ça se fait que c'est le français qui s'est imposé en Nouvelle-France?
Oui, ça, c'est la grosse question. Et pour ça, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a l'image que la France était très, 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 très dialectalisée et qu'on a l'idée que la Révolution française a sauvé la France et a donné le français à la France et a enlevé les dialectes et merci, liberté, égalité, fraternité, blablabla, bla, bla. Bon. Mais l'idée, c'est que de plus en plus dans les recherches, et ça, ce dont je parle, là, c'est vraiment des recherches extra-modernes. Là. C'est comme la fine pointe de la recherche en dialectologie gallo-romane, c'est ça le nom de la patente. Là. Dans les recherches les plus récentes, on tend à montrer que ben, probablement que la dialectalisation de la France devait... Et évidemment, il était dialectalisé, mais il devait exister une forme de français, une certaine forme de français. Certains disent que c'est le français populaire. Moi, j'aime mieux dire le français véhiculaire. Moi, j'utilise le français véhiculaire parce que je trouve que populaire, ça donne une notion de classe sociale, là. Donc, français véhiculaire, ça serait comme une forme de français que les gens qui parlent pas le même dialecte ou le même patois utilisent entre eux pour se comprendre. Donc, une langue véhiculaire, c'est ça. C'est quand, mettons, deux personnes qui parlent pas la même langue vont se parler en une troisième langue. Si, mettons, exemple, quand moi, j'ai rencontré mon chum qui est italien, ben moi, je parle pas italien, puis lui, il parlait pas français, mais on se parle en anglais. Donc, l'anglais était la langue véhiculaire. Voilà. Ben le français véhiculaire, ça serait comme cette espèce de forme de français que les marchands, les voyageurs, les troubadours, les donc, tous ces gens-là qui se parlaient entre eux parce qu'il fallait bien qu'ils devaient bien se comprendre à un moment donné. Je veux dire, cette idée-là de la France hyper dialectalisée, hyper morcelée, ça n'a pas beaucoup de bon sens. Je veux dire, à un moment donné, ils devaient finalement finir par se comprendre. Il devait bien y avoir des gens qui parlaient une certaine forme de français. Puis cette forme de français-là, qui devait être une forme de français orale, parce qu'on n'a pas de traces écrites, bien, probablement que c'est cette forme de français-là qui a été, à la base, importée au Québec. Puis, ce qui nous amène à avoir, à poser les bases de cette idée-là, c'est qu'on a de plus en plus des points communs entre le Québec et des régions de la France avec lesquelles on n'est pas censé avoir des points communs. Par exemple, on sait que la colonisation de la France vient du nord-ouest... La colonisation de la Nouvelle-France, pardon, vient du nord-ouest de la France, nord-nord-ouest, Paris, un peu du Poitou, mais généralement, c'est ça. Donc, si on a des points communs entre le Québec et le sud de la France, ou le Québec et l'ouest, ou le Québec et la Belgique et la Suisse, je veux dire, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu de contingent de colons suisses qui ont colonisé la France, le Québec. Donc, quel est le point commun entre le Québec et la Suisse? C'est la langue française. Donc, si on trouve des points communs, l'exemple dont je me sers le plus souvent, c'est l'expression cru, dans le sens de froid et humide. C'est cru ou faire cru. Peut-être que vous, les jeunes, vous la connaissez pas. Mais elle est attestée depuis un certain temps au Québec. Les personnes plus âgées la connaissent, dont moi. Mais elle est attestée en France, dans certaines régions de la France qui n'ont pas du tout fourni de contingent de colons au Québec, en Suisse, en Belgique, en Haïti, je pense. Donc, cette expression-là, puis elle est dans, très important, elle est dans aucun dictionnaire français. Ah ouais. Dans aucun dictionnaire ancien, là. Aucun, elle n'est pas dans le dictionnaire de l'Académie, elle n'est pas dans aucun dictionnaire. Donc, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, ça vient d'où, ça, cette affaire-là? Donc, ce qu'on peut penser, c'est que cette expression-là, et il y en a plein d'autres. Par exemple, j'ai vu récemment dans une carte de mes collègues. La page Le français de vos régions, abonnez-vous à cette page-là. Ils font des cartes géniales, puis ils font des enquêtes linguistiques. Puis on trouve des points communs entre le Québec et la France. Par exemple, le mot « cocotte » pour nommer une pomme de pin. Mmh. Il y a comme une espèce de mini-mini point commun entre le Québec et la France. Je pense que c'est comme dans le centre-sud de la France, comme un petit point de la France qui dit cocotte. Le reste, ils disent pas ça, puis il y a juste le Québec qui dit ça.
Ah ouais.
On sait pas d'où ça vient, ça n'a pas rapport. En tout cas, bref. Mais le fait qu'on ait ce genre de choses-là, qu'il n'y ait aucun autre point commun, on n'est pas capable d'expliquer ces points communs-là autrement que par le fait qu'il y aurait peut-être eu une forme de français véhiculaire. Et ces expressions-là devaient exister dans cette forme de français-là. Et là, ben, elles se sont installées dans ces régions-là, puis elles ont disparu ailleurs. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'on parlerait français au Québec et non normand. Et l'autre exemple, dont je n'ai pas parlé dans mon livre d'ailleurs, c'est que ça parle français en Acadie aussi. Hein. Donc ça, c'est un autre point. Parce que ça, il y avait des grosses concentrations de dialectes dans la colonisation de l'Acadie. Et s'il y avait eu à parler dialecte en Acadie, ça aurait parlé dialecte. Et ça parle encore français. Ça parle quand même français en Acadie. Donc, voilà. C'est un autre... Voilà.
Continuons sur cette lancée. Oui. En fait, aujourd'hui, il y a un autre mythe qui circule, qui est assez répandu aussi, là, que le français québécois équivaut au français qui était parlé au 17e siècle. Nous aurions gardé nos vieux mots et nos vieilles tournures sorties pourtant de l'usage en France aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui ferait ce type d'affirmation?
Oui, bien, c'est ça. C'est que nous, on a comme une bulle linguistico-temporelle au-dessus du Québec, là, où la société évolue. T'sais, on est une des sociétés les plus avancées socialement sur le plan du féminisme, sur le plan de toutes sortes d'affaires. Je veux dire, il y a Ubisoft chez nous, puis il y a toutes sortes d'affaires, mais on parle la langue du 17e. Notre langue n'a pas évolué. C'est tellement ridicule. Je veux dire, des fois, je regarde les gens qui disent ça, mais réfléchis deux secondes. Je veux dire, arrête là, c'est tout. C'est, ça n'a aucun bon sens. Cette affirmation-là tient du fait qu'on prend pour... On tient pour acquis que le français, c'est la France. Donc, on prend pour base la France... Puis on constate qu'il y a des mots qu'on utilise au Québec qui ne sont plus utilisés en France. Donc, on dit « Ah, c'est des vieux mots! » Mais c'est quoi un vieux mot? Je veux dire, cherchons la date d'attestation du mot « besoin », mettons. Je veux dire, il date du 11e siècle. C'est un vieux mot. C'est super vieux comme mot. Mais vu que la France l'utilise encore, ah ben non, c'est pas un vieux mot. Donc, c'est toujours la comparaison avec la France. C'est qu'on dirait que le français québécois ne peut pas exister sans la comparaison avec la France. Et j'aimerais faire l'exercice de trouver des mots qui existent encore au Québec, je veux dire qui n'existent plus au Québec, mais qui existent encore en France. Qu'est-ce qu'on dirait comme argument? Mettons qu'on trouve un mot qui existe encore en France, mais que nous, on a arrêté de dire. Qu'est-ce qu'on dirait? On dirait qu'on manque de vocabulaire. On dirait que le français québécois est en train de se déflétrir et que ça va pas bien et que tout s'avelit. C'est ça qu'on dirait. C'est ça qu'on dirait. On dirait pas que c'est des vieux mots puis que le français de la France, c'est du vieux français. C'est pas ça qu'on dirait. Donc, tout dépend du point de référence. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que le phénomène de conservatisme de choses qui ont évolué différemment, ben c'est la même chose avec l'anglais des États-Unis. Parce qu'on prend la prononciation de l'anglais des États-Unis, elle ressemble beaucoup plus à l'anglais de Shakespeare que la prononciation britannique aujourd'hui. Est-ce qu'on a déjà entendu quelqu'un dire que l'anglais des États-Unis, c'était du vieil anglais?
Non.
Voilà. Ben c'est ça. Puis, de toute façon, le français québécois, évolue, c'est juste qu'il évolue pas dans le même sens. Ça a pas évolué. Je veux dire, on a, à partir du moment où on a un contingent de personnes qui s'établissent en quelque part et qu'il y a d'autres personnes qui restent dans le lieu d'où les premières personnes sont parties, ben, ça évolue en parallèle. Ça change. Donc, il y a certaines choses qui sont conservées, il y a certaines choses qui sont perdues, il y a certaines choses qui changent de sens, il y a certaines choses. Donc, voilà, c'est comme ça. Et là, si au Québec, on a conservé certaines prononciations ou si on a changé certaines autres ou si on a conservé des mots ou je sais pas trop, ben, c'est parce que c'est comme ça que ça marche. Mais ça veut pas dire qu'on a du vieux français. Là, chez moi, avec le vieux français, là, cette idée-là, c'est ridicule. Voilà. C'était ma montée de lait de la soirée.
En restant sur le sujet de la distinction avec l'hexagone, on a tendance des fois à utiliser des mots comme le québécois ou le joual pour parler du français qu'on parle au Québec. Et on vient de se demander pourquoi que ça peut être problématique d'utiliser un autre mot que français pour parler du français québécois.
Oui, ben c'est ça. Moi, ça, c'est une autre chose que j'aime pas. C'est quand on parle du québécois. Bon, d'une part, si on parle du québécois, ça implique que soit on parle un dialecte. Donc, moi, je suis tannée de, qu'on me dise que moi, je parle un dialecte du français, parce qu'on est comme 7 millions, là. Mm-hmm. On pourrait arrêter de faire... Puis, soit on parle pas du français, soit on parle une autre langue que le français. Donc, on va régler le problème du dialecte. On parle pas un dialecte parce que on parle une variété de langues. On a notre propre culture, on a notre propre norme, etc., etc. Je rentrerai pas dans la notion de dialecte, c'est super complexe, là, mais c'est pas un dialecte qu'on parle. L'histoire de l'autre langue, ça, c'est plus compliqué. On pourrait, en théorie, dire qu'on parle une autre langue. Parce que ce qui détermine la différence entre deux langues distinctes, c'est pas des raisons linguistiques. Mettons, le serbe et le croate, ben, en théorie, ça serait... Linguistiquement, c'est comme les mêmes langues. Mais allez pas dire à un serbe qui parle croate. Et le norvégien et le suédois. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de langues comme ça qui se ressemblent vraiment, mais qui, dans la réalité, sont nommées comme étant des langues différentes. Fait que dans l'absolu, on pourrait objectivement dire que le québécois est distinct du français. Pourquoi on le fait pas? Parce que ça fait depuis le début qu'on est ici, qu'on se définit comme étant francophone. L'identité québécoise est définie comme étant une identité francophone. Donc, dire qu'on est autre chose que des francophones, faudrait complètement changer l'identité. Donc, ça marche pas. Ça peut pas faire ça. Puis le fait que, parce que cet argument-là d'intercompréhension, puis que blablabla, bla, bla, oui, mais les Français ne comprennent pas, oui, mais nous autres non plus, on comprend pas les Français, là. Bon, puis pour vrai, là, ça arrive, cette histoire-là d'intercompréhension, moi, je suis fatiguée aussi de l'entendre, parce que c'est pas vrai qu'on se comprend tout le temps. Ça arrive pas qu'on se comprend tout le temps. Ça arrive très souvent que deux personnes qui sont réputés parler la même langue se comprennent pas parce qu'ils disent des mots qu'ils connaissent pas. Puis qu'est-ce qui arrive quand on se comprend pas? Ben on dit à l'autre, ben je te comprends pas, puis l'autre explique.
Exact.
C'est tout.
Mais c'est le fait de nommer le français qu'on parle ici au Québec avec un autre mot que le français, ça serait peut-être... Là, je sors de mon questionnaire, mais ce serait peut-être justement une forme d'insécurité. Là, je vais le découvrir dans votre ouvrage sur l'insécurité linguistique, mais j'imagine que ça vient
ben,
de là.
Ben aussi, il y a aussi l'histoire que quand après l'acte d'union, ben avant l'acte d'union, quand les Anglais ont voulu nous assimiler, ils ont dit qu'on parlait un French Canadian patois. Et ça, donc, on n'est pas digne de parler français parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Anglais... Quand ils sont arrivés ici, eux, ils parlaient français. Ils parlaient le français de la haute société, le français lingua franca de l'Europe super pétée, là. Puis nous, on parlait l'espèce de français vernaculaire que des gens avec qui on n'était pas en contact avec la France depuis super longtemps et des gens très peu instruits. Fait qu'ils sont arrivés très peu instruits. Donc, les Anglais sont arrivés ici, puis ils n'ont pas vu le français qu'eux pensaient connaître. Et donc, ils ont discrédité le français qu'on parlait. Et à cause de ça, ils ont dit ça vaut même pas la peine de dire que c'est du français. Donc, cette idée-là de dire que c'est pas du français qu'on parle, ça vient chercher loin dans les racines identitaires, là. Donc, non, c'est du français qu'on parle. Faut pas dire que c'est pas du français qu'on parle. C'est du français québécois, c'est une variété de langues légitime, complète, avec des registres de langues, avec comme la différence entre l'anglais américain et l'anglais britannique, etc. C'est ça, c'est des variétés de langues, c'est tout.
Là, vous avez mentionné hashtag tout s'avélie, que j'aime beaucoup d'ailleurs, là, qu'on voit souvent sur votre page Facebook et même sur des t-shirts. Oui, on a croisé, moi et Patrick, un gars hier qui portait le t-shirt. Donc, ouais. Et là, justement, dans l'ère des médias de masse, dans l'ère de la technologie, on entend souvent qu'on est en train de perdre notre langue, qu'on parle français et surtout vis-à-vis l'anglais. Donc, est-ce que c'est vrai finalement qu'il y a une dégénérescence du français, que tout s'avélie, hashtag?
Bien, en fait, c'est sûr que le français change. OK, bon, là, d'une part, ça, il ne faut pas penser que le français ne bougera pas. Comme je l'ai dit dans mon livre, je pense que c'est dans mon introduction, c'est que c'est un peu prétentieux de penser que... Tu sais, on sait que le français a changé. Donc, penser que le français ne changera pas, un, c'est prétentieux, puis deux, penser qu'on va contrôler les changements du français, c'est aussi doublement prétentieux. Le français va changer, puis on le sait pas vers où il va s'en aller. Et on est dans une période de mouvance sociale, et la langue est un objet social. Donc, certaines personnes qui disent que les réseaux sociaux, Internet et tout nuisent à la langue, ben c'est parce qu'ils ont perdu le contrôle. Parce que ce qui est beau dans Internet, dans les communications instantanées, c'est que il y a une barrière qui a été franchie. C'est que avant, à l'écrit, on ne communiquait que en registre soigné. Parce que la langue écrite qu'on apprend à l'école, c'est le registre soigné. Il faut mettre le non-négation, il faut écrire de telle manière, il faut accorder tous ces verbes, etc. Bon, ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Et l'image, c'est comme complètement le contraire de ce qu'on a vu, ce qui se passait au 17e siècle. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé après la Révolution française, dont on n'a pas parlé, parce qu'il faudrait qu'on fasse une émission plus longue. Mais là, avec les réseaux sociaux, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'écrit comme outil de communication avec nos proches dans notre vie quotidienne. Donc, comme quand on parle avec nos proches dans notre vie quotidienne, on utilise le registre familier. Donc là, la barrière des registres a été brisée et on parle en familier avec nos amis, avec nos proches, avec tout le monde. Donc, on se donne des permissions à l'écrit. On se donne la permission de pas mettre le non-négation, comme je viens de faire. On se donne la permission d'écrire de manière plus libre. On se donne la permission d'utiliser des anglicismes. On se donne la permission de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on se donnait pas avant. Des permissions qu'on se donnait pas avant. Et là, les personnes qui croyaient avoir un contrôle sur la langue écrite ont pas le contrôle. Parce que l'usage gagne partout. C'est phénoménal. Mais moi, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'il y a un partage, surtout même en français. Il y a un partage génial parmi toutes sortes de variétés de français. Par exemple, moi, je sais, ma fille, l'autre fois, elle m'a dit « j'ai la flemme ». Ma fille de 12 ans, elle m'a dit « je voulais faire ça, mais je peux pas, j'ai la flemme ». Je suis là « what? » J'ai dit « la flemme? » J'ai dit « ça vient d'où cette expression? » J'ai entendu ça sur YouTube. Elle dit « je trouvais ça cool, j'ai décidé de l'employer. » D'accord! Et là, ça dit « chelou ». Les Québécois, les jeunes Québécois disent « chelou », ils disent « meuf ». Ils utilisent des mots de l'argot français, du verlan français. Et j'ai des amis qui m'ont spoté des jeunes Français qui disent « tabarnak ». Donc, il y a une espèce de partage, parce que voilà, tout est permis, parce qu'il n'y a personne qui a le contrôle, et ils se parlent entre eux. Toutes les variétés de langues se parlent entre eux, c'est super génial. Donc, c'est merveilleux. Et l'utilisation de l'anglais, ben c'est la langue de la communication, c'est la langue du divertissement, et on n'a pas beaucoup de temps d'en parler, mais il faudrait me réinviter.
Ah, avec plaisir, avec plaisir. Donc, justement, c'est déjà tout le temps qu'on avait pour ce soir. Merci infiniment à notre invitée, Anne-Marie Beaudoin-Bégin. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous recevoir à l'émission. Si vous voulez en savoir plus au sujet de la langue française et de son histoire, je vous invite à vous procurer l'ouvrage de Mme Beaudoin-Bégin, La langue racontée, s'approprier l'histoire du français, publié aux éditions Somme Toute. Enfin, si vous souhaitez partager ou réécouter l'émission de ce soir, elle sera disponible en balado-diffusion dès demain sur le site de Chiz. Pour terminer, quittons-nous sur une autre pièce musicale, Noëlla, du groupe québécois Saratoga. Ah oui. Donc sur ce, c'était Amy Bois et Patrick Pombriand à l'animation, Myriam Lévesque à la console. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire.
J'avais oublié que... jours humides au coin des yeux. Elle a jamais cherché à recoudre et s'entête à faire des nœuds.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Longe tes oreilles dans la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Que calor. Samedi, dimanche, 13h, on vous amène la chaleur tropicale. Que calor. Radio Futura 94.3 FM vous amène à un voyage au tropique. En vous pressant les week-ends tropicaux, son, salsa, cumbia, reggaeton, romántica, vallenato y rock en español. ¡Que comience la fiesta!